Radio Okapi.
Les informations, Jocelyne Moussa Oupondé. Discours sur l'état de la nation, Félix Tshisekedi a, devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès hier lundi, présenté les défis de Kinshasa et les avancées pour améliorer la vie des Congolais. Les grandes lignes de son adresse tout à l'heure. Une flambée de choléra sans précédent depuis 25 ans touche plus de 64 000 personnes en RDC, dont des milliers d'enfants. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Notre invité est Michel Meta, le président de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI. Il analyse les opérations militaires contre les groupes armés et l'impact sur les communautés locales depuis 2017. Bonjour à tous. Embouteillage monstre, obstruction des caniveaux, mauvaise gestion des déchets, pression démographique dans les quartiers populaires, voilà autant des facteurs qui exposent la population de Kinshasa au risque sanitaire majeur. Déclaration du président de la République Félix Tshisekedi dans son discours sur l'état de la nation hier lundi à Kinshasa. Il appelle à des engagements fermes pour résoudre ces problèmes, y compris la criminalité urbaine marquée par le phénomène Kuluna, afin de redorer l'image de la capitale congolaise. En outre, le chef de l'État cite des avancées significatives dans plusieurs secteurs, notamment sur le plan diplomatique, économique, éducationnel et infrastructurel. Le président de la République dit travailler davantage pour améliorer le social des Congolais. Grâce à Mzati nous donne les grandes lignes de ce discours.
Après avoir passé en revue les démarches diplomatiques visant la restauration de la paix dans l'Est de la RDC, le président de la République s'est dit préoccupé par la montée du banditisme à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, en réitérant l'engagement du gouvernement à y mettre fin, notamment par le renforcement et les réformes de la police. Dans la foulée, Félix Tshisekedi dresse un tableau sombre de la situation dans la ville de Kinshasa, caractérisée par l'insalubrité et les embouteillages qui détériorent la vie des Kinois et affectent l'image même de la capitale. Pour Félix Tshisekedi, la crise des mobilités n'est plus un simple désagrément urbain, mais bien un défi national de gouvernance nécessitant des décisions urgentes, coordonnées et courageuses. Sur le plan économique, le président de la République affirme que le pays progresse en dépit de la guerre, citant l'appréciation du franc congolais. Sur le plan éducationnel, Félix Tshisekedi parle d'un supplément de 100 000 francs congolais accordé à chaque enseignant et de 1384 nouvelles écoles construites à travers le pays dans le cadre de la gratuité de l'enseignement primaire. Il évoque des progrès dans d'autres domaines, notamment la santé, l'agriculture, l'accès à l'emploi et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Tout en restant optimiste quant à l'avenir du pays, le chef de l'État conclut son discours en disant, je le cite, « Les ténèbres ne régneront pas toujours. RDC, lève-toi, sois éclairé car la lumière arrive. » Fin de citation.
Pour les députés de l'Union sacrée, Yannick Mambou, le discours du président de la République a été un moment de vérité, de clarté, de lucidité et de fermeté. Il salue particulièrement le fait que le chef de l'État ait dénoncé la violation de l'accord de Washington par le Rwanda, survenu quelques jours seulement après sa signature. Le député Yannick Mambou était l'invité de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier soir. On l'écoute dans cet extrait proposé par Enoch Katumbi.
C'était un moment de vérité, de clarité, de fermeté, de lucidité, surtout en ce qui concerne les derniers développements liés à l'accord de Washington, signé les quatre derniers. Nous avons en tout cas savouré un très bon moment, que le président était au rendez-vous de son message. En revenant sur les accusations de violation de l'accord par le Rwanda, le chef de l'État a rappelé que la RDC reste engagée pour la paix d'abord, mais jamais au prix de sa souveraineté ou bien de la sécurité de ses populations. Ça veut dire clairement qu'il n'y a pas de sincérité de la part du Rwanda à ce qui concerne les engagements pris. Cela a été démontré le jour même de l'accord où on a signalé des attaques massives venant du Rwanda, et cela nous interpelle tous.
en dénonçant dans son discours la poursuite des attaques de l'armée rwandaise contre la RDC. La plateforme de l'opposition Lamuka félicite le président de la République, Félix Tshisekedi, d'avoir avoué que l'accord de paix de Washington qu'il a signé est un mort-né. Dans une déclaration faite hier lundi à Kinshasa, Lamuka rappelle au chef de l'État que les États n'ont ni morale ni bonne foi. Selon cette branche de l'opposition congolaise, il n'y a ni cessez-le-feu ni engagement de la part de Paul Kagame qu'il est censé connaître. On écoute Prince Epengé, porte-parole de cette plateforme politique, dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Comme disait Bismarck, la diplomatie sans les armes, c'est la musique sans les instruments. Encore pire, car il n'y a ni cohésion ni unité nationale à l'interne. Malheureusement, M. Félix Tshisekedi a raté l'occasion de rassembler et d'unir les Congolais. Toutes les options étaient épuisées. Toutes les solutions qu'il a proposées n'ont pas conduit à la paix. Seul un dialogue national inclusif peut sauver la nation aujourd'hui. M. Félix Tshisekedi doit comprendre que les discours qu'il a prononcés aujourd'hui, c'est un discours si l'état d'une partie de la nation et non si toute la nation. Et nous craignons que s'il continue à ignorer la nécessité d'un dialogue, qu'en 2026, il prononce le discours si une partie de la nation encore. C'est ça le danger.
Je l'ai dit à l'ouverture de ce journal, en République démocratique du Congo, une flambée de choléra sans précédent depuis 25 ans met en danger des milliers de familles. Dans un communiqué rendu public hier lundi, l'UNICEF tire la sonnette d'alarme face à une situation qui touche un enfant congolais sur quatre. Plus de précisions avec Enoch Katumbi.
Depuis janvier, plus de 64 000 personnes ont été touchées par le choléra en RDC et près de 1900 décès ont été enregistrés. Les enfants représentent une part importante des victimes, plus de 14 000 malades et 340 décès, selon l'UNICEF. 16 mineurs ont récemment perdu la vie dans un même foyer collectif à Kinshasa, illustrant la gravité de cette crise qui s'étend désormais dans 17 provinces, y compris la capitale. Le manque d'eau potable et d'infrastructures d'assainissement reste le principal moteur de l'épidémie. À cela s'ajoutent les conflits, le déplacement, les fortes pluies et l'urbanisation non planifiée qui fragilise encore davantage les familles. Dans plusieurs zones urbaines, peu habituées au choléra comme Kinshasa, le manque d'informations et le retard d'accès aux soins entraînent des taux de mortalité très élevés. Malgré le plan multisectoriel d'élimination du choléra et l'initiative Fleuve Congo sans choléra, les moyens manquent. L'UNICEF soutient des interventions d'urgence, l'amélioration de l'hygiène collective et des actions ciblées autour des foyers d'infection. L'agence onusienne dit avoir déjà sensibilisé plus de 13 millions de personnes cette année, mais prévient que ses financements pour 2026 sont insuffisants. Elle appelle le gouvernement et les partenaires internationaux à renforcer d'urgence leur appui pour éviter de nouvelles pertes en vie humaine.
Un nouveau pavillon est en cours de construction au sein de l'hôpital général de référence de Beni, au Nord Kivu. Ce nouveau bâtiment permettra d'améliorer la prise en charge médicale des détenus malades en leur offrant des conditions de soins dignes. Les travaux lancés hier lundi sont le fruit du plaidoyer de l'hôpital auprès de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO Beni qui a accepté de financer ces travaux. On écoute le médecin directeur de l'hôpital, Dr Jérémy Muindo. Il s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Ce projet tant attendu qui vient de bénéficier d'un financement de la MONUSCO, c'est un projet justement qui vient améliorer les conditions d'hospitalisation des prisonniers malades. C'est un projet également qui va renforcer les mesures de sécurité tant pour le personnel soignant que pour les autres patients. Mais aussi, ça s'inscrit dans l'alignement de notre hôpital aux normes médico-correctionnelles reconnues sur le plan international. Donc, nous saluons vraiment l'avènement de ce projet. Nous remercions ici tous ceux-là qui se sont impliqués de près ou de loin dans la matérialisation de ce projet. Ce projet, nous le saluons très vivement parce qu'il vient couronner ce plaidoyer de longue date que nous avons eu à faire auprès de notre partenaire pour que nous puissions améliorer les conditions de prise en charge des pensionnaires de la prison qui sont ici soignés à l'hôpital général.
Rendons-nous en Ituri où près de 70% des déplacés du site de Kigonze ont quitté le camp pour se réfugier dans les habitations environnantes. Beaucoup ont passé la nuit dehors, sous les arbres ou sur les vérandas. En cause, la peur d'être arrêtés lors des opérations de bouclage menées régulièrement par les services de sécurité. Environ 80 déplacés ont été interpellés ces deux derniers mois, dont une vingtaine déjà relâchés. UOP nous fait le point.
Le site de Kigonze abrite normalement près de 17 000 déplacés, dont une majorité d'enfants en âge scolaire. Mais après l'opération de bouclage menée dans la nuit de dimanche à lundi par les FARDC, opération au cours de laquelle 38 personnes soupçonnées de collision avec la milice RP de Thomas Lubanga ont été arrêtées, environ 70% des déplacés ont fui le site. 25 autres déplacés arrêtés dans les mêmes circonstances le mois dernier sont toujours détenus à l'état-major des FARDC à Tséré. Cette série d'interpellations alimente la peur et transforme progressivement les sites en ailiers jugés invivables par ses occupants qui préfèrent chercher refuge ailleurs. Selon les gestionnaires des sites, ces déplacés vivent désormais dans des conditions très précaires, exposés aux intempéries, installés sous les arbres ou devant les maisons des riverains. Une situation qui fragilise davantage leurs moyens de résilience déjà très limités. Cette tension préoccupe aussi les autorités locales, notamment les chefs d'avenue du quartier Mozipela qui se sont réunis ce lundi au centre des échanges, voir comment concilier les caractères civils des sites avec les impératifs de sécurité, alors que ce camp est considéré par certains services comme un repère potentiel pour des criminels. Pour l'heure, aucune communication officielle des autorités compétentes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans la ville de Beni, les corps sans vie de deux personnes porteuses d'armes à feu et en tenue civile ont été retrouvés hier matin à Kasangatua, dans la commune de Bungulu. Selon la société civile de la commune, les victimes auraient été tuées par des jeunes qui les accusés de cambriolage dans le quartier Mambango. Cette structure citoyenne s'inquiète de la montée de la criminalité dans la ville à l'approche des fêtes de fin d'année. Elle appelle les services compétents à renforcer les mécanismes sécuritaires et invite les jeunes à ne pas recourir à la justice populaire. Jérès Mukongoli, son président, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Comme nous sommes pendant la période des préparatifs des festivités, il y a une recrudescence de banditisme urbain, surtout à la commune de Bungulu, qui est caractérisée par des incursions, voire même des extorsions, des tueries par-ci par-là. C'est dans un même endroit où d'autres corps sans souffle de vie ont été découverts. C'est toujours dans le même quartier, même place. Donc, ils sont avec des indices militaires. Ils ont été avec des armes, avec jumelles, mais qui ont été récupérées par la population. Cette criminalité urbaine ou ce banditisme que nous, comme la société civile a commis de Bungulu, nous condamnons cet acte et nous disons aux services de sécurité d'avoir vraiment la conscience vivante pour sauver ou soit protéger, voire même sécuriser sa population dans leurs entités respectives. Nous condamnons vraiment cet acte. Vous savez, la justice populaire n'est pas vraiment autorisée dans la loi congolaise. C'est ce que nous condamnons cet acte, nous comme la société civile.
La semaine dernière, lors d'une parade spéciale, le commissaire provincial de la police Nord Kivu avait rassuré la population quant aux mesures sécuritaires mises en place pendant cette période de fin d'année. Dans un autre chapitre, le cadre de concertation de la société civile du Kasaï central tire la sonnette d'alarme face à l'obstruction des caniveaux le long des routes récemment réhabilitées. À peine construits, plusieurs de ces ouvrages sont déjà envahis par des déchets abandonnés par certains riverains. Une situation qui pourrait compromettre l'écoulement des eaux des pluies, endommager la chaussée ou même provoquer des inondations. Face à ce danger, le président de cette structure de la société civile appelle les habitants à entretenir régulièrement ces caniveaux plutôt que d'attendre uniquement l'intervention des services de l'État. Jean-René Chimanga a été joint au téléphone par Fernand Makolo.
Nous avons constaté que les caniveaux qui étaient construits pour pouvoir orienter les eaux de ruissellement sont déjà remplis de déchets toxiques et autres ordures ménagères, et voire même les sables. Voyons même la verdure commencer à pousser. L'État a répondu aux besoins de la population en construisant des routes et en orientant les eaux de ruissellement pour éviter des érosions. Nous devons nous approprier ces efforts fournis par l'État. Notre appropriation consiste dans les travaux d'intérêt communautaire. Je demande à la population de bien vouloir s'intéresser aux travaux d'intérêt communautaire, comme cela a été par le passé, pour que nous-mêmes nous puissions prendre l'avenir de notre province en main. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera, et quand les eaux de ruissellement vont déborder, nous allons encore crier aux érosions et consorts.
Actualité internationale.
En Tanzanie, journée de mobilisation sous haute tension à l'occasion de la fête de l'indépendance célébrée le 9 décembre. La jeunesse appelle de nouveau à descendre dans la rue pour dénoncer la répression des manifestations qui ont suivi les élections du 29 octobre et exiger le départ de la présidente Samia Suluhu. Alors que les autorités ont interdit les rassemblements, l'ONU et plusieurs pays, dont les États-Unis, ne cachent pas leur inquiétude face au risque d'assister à des nouvelles violences.
L'invité.
En Ituri, l'armée intensifie les opérations de traque des groupes armés dans le territoire de Djougou, y compris dans certains sites des déplacés, même à Bounia, où se cacheraient des criminels. L'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, UNADI, qui regroupe 21 communautés locales, salue ses efforts, mais déplore certaines méthodes qui, selon elle, contreviennent parfois au droit international humanitaire. Quel est l'impact de ces opérations et comment mettre fin aux conflits armés qui s'écoulent la province depuis 2017. Michel Meta, président de l'UNADI, s'entretient avec Isaac Remoyope.
Le président de l'UNADI, bonjour. Depuis un certain temps, l'armée est en train de traquer les suspects, notamment le site de Kigonza à Bounia, qui est presque vidé de ses habitants. Quelle est votre lecture ou perception de cette action de l'armée?
Ça fait déjà 3-4 jours. On est en train d'assister à une population qui vide les sites déplacés, qui fuit. Au départ, on disait qu'il y a des CRP qui sont hébergés à des sites. Alors nous nous sommes posé la question, est-ce que pour qu'on puisse arrêter le fouteur des troubles, la CRP soi-disant et autres, faut-il vraiment mettre toute la population à débandade? Nous pensons que peut-être la méthode serait beaucoup plus forte si ce n'est pas un autre agenda. Je pense que le gouvernement provincial et les services de sécurité devraient étudier davantage une autre stratégie pour arrêter ces fouteurs de troubles qui s'hébergent avec les déplacés. Connaissant parfaitement que ces déplacés sont dans une situation de détresse et aujourd'hui, plus de 60% de ces populations vident les sites. Pour aller se réfugier encore dans quel site? Ça viole les droits, la Convention de Vienne qui protège la population dans une situation de détresse.
Vous êtes sans ignorer que nous sommes dans un régime spécial de l'état de siège. Quand il y a la situation de sécurité, on constate que le site est en train d'héberger des hommes armés. Et l'armée doit garantir la sécurité dans la ville.
Bien évidemment, l'armée est dans ses droits. Nous avons toujours appuyé notre armée. Nous avons toujours soutenu qu'on traque les groupes rebelles, qu'on traque tous ceux qui détiennent les armes illégalement. Mais la manière de traquer les mamans, les enfants et tout le monde était de fuir. Moi, je pense qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées.
Lesquelles, par exemple?
Par exemple, on peut utiliser un service de renseignement avancé pour aller connaître dans les sites qui sont ces gens qui sont hébergés dans les sites. Et avec cette technique, peut-être, on peut mettre la main sur ces bandits tout en laissant la population dans leur inquiétude. Parce que les enfants, quand les enfants fuient, les mamans de troisième âge sont en train de fuir. Qu'on essaie d'étudier d'autres stratégies beaucoup plus efficaces, pas à traumatiser la population. Dès que la paix sera restaurée dans les territoires de Djougou, cette population va rentrer sans même être inquiétée.
C'est le deuxième ou troisième bouclage qui s'est fait au niveau du site des déplacés. À votre niveau, vous êtes renseigné sur les sorts de ceux qui sont arrêtés.
Nous sommes plusieurs fois appelés par les membres des communautés pour plaider la cause de leurs frères qui sont arrêtés. Nous ne pouvons pas refuser qu'on arrête les gens. Comme tout le monde bénéficie des présomptions d'innocence, ces gens, dans un premier temps, sont d'abord des innocents. S'il y a des indices effectivement de culpabilité, il y a quand même des juridictions militaires pour que ces gens soient déférés des valeurs justes naturelles qui seront assistés par leurs avocats et assistés par leurs familles. Et à la fin, ceux qui seront quittés, ceux qui n'auront même pas de problèmes seront libérés, mais ceux qui ont commis des cas de problèmes, soit ils ont des indices sérieux de culpabilité, je pense que la loi est claire. Mais sinon, la situation devient alarmante parce que vous avez suivi même à Djougou, la population quitte les sites de déplacés, venir se réfugier auprès de FARDC. Et ça ne marche pas, ils fuient auprès de UPDF pour se réfugier. Et là, ça laisse la situation déplorable auprès de la population.
Je ne pensais pas que vous voulez une chose et son contraire. Vous avez toujours plaidé qu'on puisse intensifier les opérations militaires. Et c'est ce qui s'est fait à Djougou où on a signé les mouvements suspects du groupe armé CRP et on est en train de les traquer. Et maintenant, les communautés sont en train de crier que ce sont des tracassés.
Non, nous ne demandons pas une chose et son contraire. C'est que nous demandons que le travail se fasse d'une manière professionnelle. Parce que c'est la même population qui va aussi collaborer avec notre armée pour traquer les bandits. Et lorsque les relations civilo-militaires deviennent tendues, est-ce que l'armée peut faire vraiment un bon travail? Je pense que le travail risque de devenir encore très compliqué.
Depuis 2017, le gouvernement provincial en train de solliciter la collaboration de la population pour traquer les groupes armés. Cela ne se fait pas vraiment parce que les groupes armés ont une tendance communautaire. Vous ne pensez pas que c'est le moment maintenant d'appliquer la force?
Pendant tout ce temps, nous avons travaillé avec notre armée. Nous avons organisé plusieurs activités de dialogue communautaire. Ça rentre dans les cas de civils.
Qui n'ont pas produit des résultats escomptés.
Dès qu'il est vrai que les conflits en Ituri sont profonds, il fallait un travail méthodique à collaborer avec la population. Vous souvenez-vous même ce qui se passe à Djougou avec la sensibilisation, tant soit peu par l'honorable Ouyewa, le commandant secteur. C'est toujours la population qui a été d'appuyer ça. Sinon, ça ne peut même pas aller facilement. Je crois que le travail doit être vraiment dans l'ensemble. La population, l'armée doit faire un très beau mariage pour que nous puissions arriver à avoir la paix définitive dans les territoires de Djougou particulièrement.
Le président de l'INADI, nous vous remercions.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Polly Mouzelia et mis en onde par Pierre Diassinois. Merci à vous tous de l'avoir suivi et merci de le réécouter sur notre site internet radiocapi.net.